Alors, la séduction, on l'a vu avec nos invités, Anne Zazo et Georges Vigarello, est de l'ordre de la beauté sociale, construite, apprivoisée. Et la femme est bien plus qu'un présentoir idéal, elle manipule consciemment les pouvoirs d'attraction que lui confère le vêtement, comme la chaussure, le talon. Elle sait jouer, comme l'homme d'ailleurs, avec le curseur de la pudeur. Alors, aujourd'hui, le vêtement s'uniformiserait, deviendrait unisexe. Resterait donc ce que l'on ne voit pas pour attiser le désir. À nous de jouer avec la nudité pour emporter le corps de l'autre. Un peu comme Nana dans Zola.
Nana, d'Émile Zola. Un frisson remua la salle. Nana était nue. Elle était nue avec une tranquille audace. Certaine de la toute-puissance de sa chair, une simple gaze l'enveloppait. Ce qui suivit acheva d'empoigner la salle. Diane s'en était allée furieuse. Tout de suite, assise sur un banc de mousse, Vénus appela Mars auprès d'elle. Jamais encore on n'avait osé une scène de séduction plus chaude. Nana, les bras au cou de Prulière, l'attirait. Lorsque Fontan, se livrant à une mimique de fureur cocasse, exagérant le masque d'un époux outragé qui surprend sa femme en flagrant délit, parut dans le fond de la grotte. Il tenait le fameux filet aux mailles de fer. Un instant, il le balança, pareil à un pêcheur qui va jeter un coup d'épervier. Et par un truc ingénieux, Vénus et Mars furent prises au piège, le filet les enveloppa, les immobilisa dans leur posture d'amants heureux. Un murmure grandit, comme un soupir qui se gonflait. Quelques mains battirent, toutes les jumelles étaient fixées sur Vénus. Peu à peu, Nana avait pris possession du public, et maintenant chaque homme la subissait. Le rut qui montait d'elle, ainsi que d'une bête en folie, s'était épandu toujours davantage, emplissant la salle. À cette heure, ses moindres mouvements soufflaient le désir. Elle retournait la chair d'un geste de son petit doigt. Des dos s'arrondissaient, vibrant comme si des archers invisibles se fussent promenés sur les muscles. Des nuques montraient des poils follets qui s'envolaient, sous des haleines tièdes et errantes, venues on ne savait de quelle bouche de femme. Fauchery voyait devant lui l'échappée de collège que la passion soulevait de son fauteuil. Il eut la curiosité de regarder le comte de Vandeuvre, très pâle, les lèvres pincées. Le gros Steiner, dont la face apoplectique crevait. La Bordette, lorgnant d'un air étonné de Maquignon qui admire une jument parfaite. Daguenay, dont les oreilles saignaient et remuaient de jouissance. Puis un instinct lui fit jeter un coup d'œil en arrière, et il resta étonné de ce qu'il aperçut dans la loge des Muffas. Derrière la comtesse, blanche et sérieuse, le comte se haussait, béant, la face marbrée de taches rouges. Tandis que près de lui, dans l'ombre, les yeux troubles du marquis de Choire étaient devenus deux yeux de chat, phosphorescents, pailletés d'or. On suffoquait. Les chevelures s'alourdissaient sur les têtes en sueur. Depuis 3 heures qu'on était là, les haleines avaient chauffé l'air d'une odeur humaine. Dans le flamboiement du gaz, les poussières en suspension s'épaississaient. Immobile au-dessous du lustre. La salle entière vacillait, glissait à un vertige, lasse et excitée, prise de ses désirs ensommeillés de minuit, qui balbutient au fond des alcôves. Et Nana, en face de ce public pâmé, de ces 1500 personnes entassées, noyées dans l'affaissement et le détraquement nerveux d'une fin de spectacle, restait victorieuse, avec sa chair de marbre, son sexe assez fort pour détruire tout ce monde. Et n'en être pas entamé.
La nudité, en tout cas sur scène, rend fou. Est-ce que la nudité est seulement animale ?
Ouais, il y a une histoire de la nudité déjà. Et je trouve par exemple que la nudité que l'on voit chez les peintres à la Renaissance, ça reste quand même une nudité académique. Or je trouve que le 19e siècle, en particulier dans la deuxième moitié, Nana en est un exemple, met en scène des nudités que je qualifierais de quotidiennes, c'est-à-dire l'unité de tout le monde. Nana est une exception, mais c'est quand même une personne qui affiche sa nudité.
Et qui vient d'un milieu
et qui vient d'un milieu très modeste, effectivement. Mais là, quelque chose se produit. Là, il y a un travail dans la façon de mettre en scène le corps qui est complètement nouveau. La deuxième chose qui est absolument passionnante chez Zola, et qui confirmerait ce que vous disiez tout à l'heure sur la façon dont la séduction peut être subie, la deuxième chose, c'est qu'ici, en l'occurrence, nous avons une scène d'une puissance tellurique où la séduction a des effets physiques sur la personne séduite. Zola décrit sans fin la manière dont les yeux sont exorbités, dont les muscles sont tendus, dont les transpirations sont présentes. Et là, on a vraiment une analyse de la séduction comme effet entraînant une passivité de la part de la personne séduite. Mais je pense que c'est une vision de la séduction. Et c'est une vision de la séduction nouvelle, à mon sens, chez Zola, parce que, dans une certaine mesure, elle est aussi, comment vous dire, acceptée. C'est-à-dire que on commence à détailler la manière dont quelqu'un peut être pris physiquement. Alors jusque-là, ça ne se faisait pas. Ça restait dans un ordre de la pudeur.
Anne Zazo, avant, il suffisait de soulever pour accéder au cachet, hein, c'est dont on parle depuis le début avec Georges Vigarello. Aujourd'hui, la lingerie s'affiche, se revendique. Serait-ce que la lingerie est aujourd'hui la seule barrière entre le nu et la séduction?
Déjà, à l'époque de Zola,
il y avait effectivement une simple gaze.
Il y avait une simple gaze. Et parfois, au Bonheur des Dames, il n'y a pas de nana, mais il suffit de voir les lingeries sur des simples mannequins de boutique pour qu'on retrouve les mêmes foules hallucinées face à des comptoirs où la lingerie s'étale.